Mesdames et messieurs, le personnel de bord va à présent passer dans la cabine pour vous distribuer une pastille de PO, l'épatant podcast Omnisport. Le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait.
Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur.
Peut-être que l'histoire d'aujourd'hui saura vous convaincre de rester confiné chez vous. En tout cas, les coureurs du marathon des Jeux Olympiques de Saint-Louis de 1904 auraient probablement préféré rester chez eux. Si la pastille du jour concerne uniquement l'épreuve du marathon, on peut néanmoins dresser un petit tableau non exhaustif des péripéties de ces Jeux. Il y a un sérieux manque de diversité puisque seulement 12 nations sont représentées, avec une écrasante majorité d'athlètes américains. 523 sur 651 selon le Comité international olympique. Les athlètes devaient payer de leur poche pour venir et concourir et n'avaient pas d'uniforme. Les femmes, 6, n'avaient le droit de participer qu'aux épreuves de tir à l'arc. Le tout prend place dans une Amérique ségrégationniste qui a le bon goût d'organiser en parallèle les journées anthropologiques. Des compétitions ayant pour but de démontrer la supériorité physique de la race blanche et de permettre aux scientifiques d'étudier ces peuplades dans une ambiance de fête au village. Saint-Louis, Missouri. 30 août 1904. C'est la deuxième fois que les Jeux Olympiques programment l'épreuve du marathon depuis l'ère des Jeux dits modernes. C'est donc 38 ans plus tard que le record de Spiriton Lewis est remis en jeu. La porte vers l'ouest accueille les 32 coureurs au sein du Francis Field Stadium dans l'après-midi. Il fait environ 32 degrés et le taux d'humidité est de 90%. Les conditions idéales pour courir les quelques 40 km de l'étape. À précisément 15h03, un coup de feu retentit. Les 32 malheureux, après 5 tours de piste, franchissent les grilles du stade. Seulement 14 atteindront la ligne d'arrivée. Obligé de slalomer entre les voitures accompagnatrices le long de la piste vallonnée, il devient pénible de respirer l'air chargé de sable et de poussière soulevé par les roues des automobiles. L'une d'elles, peu après le départ, finit dans un ravin. Résultat, 2 blessés graves, et malheureusement les premiers d'une longue liste. Les favoris Sam Miller, John Lorden et Michael Spring s'effondrent. William Garcia sera sauvé in extremis. Retrouvé sur le parcours, il souffre de graves problèmes respiratoires. Pour ne rien arranger, le comité n'a prévu que 2 points d'eau. Les réserves d'un château d'eau à près 10 km et un puits situé à environ 20 km sur un parcours comportant 7 collines. Le premier à franchir la ligne d'arrivée ne sera pas Mark Marquez, mais l'Américain Fred Lawless. Le coureur avait pourtant abandonné la course après un peu plus de 14 km et avait été ramené au stade en voiture, saluant la foule au passage. Après un peu de repos, Lord s'estime capable de finir la course et termine premier. Ovationné, il profitera de son succès jusqu'à être pris en photo avec Alice Roosevelt, la fille du président, et jusqu'à la première marche du podium, où il confessera enfin la supercherie en se justifiant que c'était une blague. C'est donc à son compatriote Thomas Hicks que le titre revient. Mais il a lui aussi bénéficié d'un petit coup de pouce. Alors qu'à mi-course, la fatigue commence à se faire sentir, ses entraîneurs lui donnent un cocktail de strychnine, de la morora, ici utilisé comme stimulant, et de blanc d'œuf qu'on arrose d'une rasade d'eau de vie. Halluciné, fébrile, tenant à peine debout, Hicks ne parvient à franchir la ligne d'arrivée que grâce au soutien de son équipe. Et littéralement, puisque Hicks, à bout de force, touche à peine le sol, agitant les pieds dans les airs pour faire illusion. Et ça marche. Les juges valident son temps de 3h29 avant de le confier en urgence aux soignants. Hicks mettra ensuite fin à sa carrière sportive. Sur la deuxième marche du podium, le bourguignon Albert Corret, et non Cora, s'est tranquillement installé avec son temps de 3h34. Mais une sombre histoire de papier l'oblige à s'inscrire sous la nationalité américaine. Et Albert, maintenant Albert, voit sa médaille revenir aux États-Unis, même s'il vit sur le continent depuis à peine un an. À l'époque, il n'est possible de demander la nationalité américaine qu'en présentant la preuve de 5 années consécutives de résidence sur le territoire. Arthur Newton termine 3e sans trop d'accro avec 3h47. Avec l'escroquerie de Fred Lawless, ce sont les 4 seuls temps enregistrés pour cette épreuve, même si 11 autres ont fini la course. Le 4e au classement était visiblement le plus ravi de tous. Félix Carpajar, postier à la Havane, a fait la quête chez lui pour financer le voyage et l'inscription. Mais il perd tout au jeu en s'arrêtant à la Nouvelle-Orléans et termine son trajet en stop avec pour seul bien son costume, son chapeau et ses chaussures. Sur la ligne de départ, il prend du retard sur ses adversaires le temps de couper les jambes de son pantalon pour s'en faire un short, et sur le trajet se permet de prendre quelques fruits dans un verger pour combler son appétit. Le karma le frappe instantanément. Il est pris de troubles gastriques et doit lui aussi faire une pause. Il revient au stade sans plus de dommages et sans avoir perdu son chapeau. Entre deux représentations d'une reconstitution de la guerre des Boers, les comédiens Len Taoniané et Jen Machiani décident eux aussi de participer. Peu d'informations sont disponibles sur ces deux athlètes sud-africains issus du peuple Tswana. Mais Len Taoniané aurait probablement été vétéran de la seconde guerre des Boers. Et en ce 30 août, il se prépare à s'élancer nu-pied à la conquête du titre. Jan finit 12e et Len 9e. Une déception pour ce dernier qui s'est retrouvé coursé par une meute de chiens. On notera cependant que ce sont les deux premiers athlètes noirs africains à concourir durant des Jeux Olympiques. Ce marathon enregistre le plus fort taux d'abandon à l'époque et est aussi considéré comme la course la plus lente. Un tel désastre sur le plan sportif et humain n'aurait pas été dû à de la simple négligence, mais aux ambitions pseudo-scientifiques du chief organizer, James Edward Sullivan. C'est en effet pour observer les effets de la déshydratation que peu de points d'eau furent établis et les scientifiques autorisés à suivre les coureurs en voiture. Enfin, serez-vous étonné d'apprendre que notre bon ami James fut chargé d'organiser les journées anthropologiques et qu'il s'est toujours opposé à élargir la compétition pour les femmes ? Autant vous dire que pour le président du Comité international olympique Pierre de Coubertin, ces Jeux olympiques 1904 laissent un goût amer, puisque celui qui vantait que la Grèce, la France et les États-Unis étaient la trinité d'un début très propre à accentuer le caractère mondial de l'institution et à l'établir sur des bases indiscutables, conclut les festivités ainsi, les Jeux reflétaient la médiocrité de cette ville. The peace. Si cette pastille vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter @EPOPodcast tout attaché, et sur Instagram @EPO_podcast. Prenez soin de vous, restez chez vous. Give me my money and stacks and lace my bitches with dime figures. Real niggas fingers on nickel plated non-triggers. Must see my enemies defeated. I catch them while they coked up and weeded. Open fire, now them niggas bleeding. See me in flesh and test and get your chest blown. Straight out the west, don't get blown. My adversaries cry like hoes. Open and shut like doors. Is you a friend or foe?